Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et comment d'ailleurs il est le miroir de notre société. C'est pourquoi aujourd'hui on a décidé de se demander comment filmer la banlieue alors que devait sortir dans quelques jours Bac Nord, finalement repoussé en raison de la fermeture des salles. Bac Nord, un polar haletant dans les quartiers de Marseille. On va revenir sur la représentation de la banlieue sur grand écran des années 80 à aujourd'hui. On parlera notamment des Misérables qui sont allés jusqu'aux Oscars, vous vous en souvenez, et on recevra le réalisateur de Bac Nord, Cédric Jiménez. 14h30, notre rendez-vous, les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est la dessinatrice Pénélope Bagieux qui nous racontera ses souvenirs de cinéma, son premier souvenir en salle, le film qui l'a fait le plus rire, le plus pleurer, ou sa scène de cinéma préféré. Et puis juste après, j'accueillerai nos critiques pour parler des films qui sortent sur vos plateformes ou en DVD-VOD, les salles restant finalement fermées. Au programme The Prom, nouvelle comédie musicale de Ryan Murphy, au casting prestigieux, c'est sur Netflix. On parlera aussi d'I'm Your Woman sur Prime Video, de Just Kids en DVD-VOD, tout comme les blagues de Toto qui débarque après avoir cartonné au cinéma. Voilà pour le programme de votre Clap du jour. Mais d'abord donc notre récit, comment représenter la banlieue au cinéma.
Europe 1, le récit.
Avant de rentrer dans nos exemples cinématographiques, il faut d'abord s'entendre sur qu'est-ce que la banlieue ? Une définition classique, l'ensemble des agglomérations qui entourent une grande ville. Beaucoup de cinéastes ont filmé ces agglomérations. Romère, par exemple, qui déclarait que la banlieue offre une matière de choix aux cinéastes, d'abord parce que des millions de gens y habitent, ensuite parce que c'est un décor plus neuf et plus varié que Paris. Mais nous, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser plus spécifiquement à la banlieue dans sa dimension grande barre HLM, celle qui nous est racontée, notamment dans La Haine ou Les Misérables, on va y revenir.
L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
C'est en fait au début des années 80 qu'on voit fleurir les premiers films de banlieue, souvent d'ailleurs tournés avec peu de moyens par des réalisateurs débutants, eux-mêmes issus de la banlieue et souvent de l'immigration. Ils veulent montrer à l'écran ce qu'on ne voit jamais. Premier exemple, Lesbéton, sorti en 1984, l'histoire de deux jeunes ados, Brian et Noureddin, qui trafiquent des objets volés dans le supermarché du coin pour fuir leur banlieue parisienne et s'envoler pour Los Angeles.
Croyez pas que je vais vous donner des millions pour ça. Ça vaut quoi ça? 20, 25 sacs? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce pognon? Vous allez pas faire de conneries au moins?
Mais non, c'est pour un voyage. Tais-toi, dis rien.
T'es vraiment comme ton père, t'es une tête de mule.
Donne-nous l'argent, mais...
Ce n'est pas un hasard s'ils veulent s'envoler pour les États-Unis. Les USA ont été une source d'inspiration pour ces minorités issues de l'immigration qui voyaient bien que le cinéma français ne s'intéressait pas à eux. Et même si l'histoire des banlieues françaises n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire des minorités aux États-Unis, il y a un terreau commun, l'exclusion, la pauvreté, le multiculturalisme. Un film va inspirer des réalisateurs dans le monde entier, Do the Right Thing de Spike Lee, sorti en 1989. L'histoire de tensions raciales qui vont exploser à Brooklyn le jour le plus chaud de l'année.
Je vais te raconter l'histoire de la main droite et de la main gauche, symbole du bien et du mal. Haine, amour, et la main gauche est mauvaise. On pourrait croire que la main de l'amour est vaincue. Mais attention, rien n'est perdu, car la main droite revient à l'attaque. Ouais, et elle repousse la main gauche dans les cordes du ring. Waouh, et d'un uppercut la terrasse, c'est gagné. Waouh, waouh, la main gauche est KO par l'amour.
Do the Right Thing, un film coup de poing qui fera beaucoup parler de lui au moment de sa sortie. Quelques années plus tard, en 1994, sort Hexagone, film signé Malik Chibane, tourné comme un vrai faux documentaire. C'est une plongée en banlieue, dans le quotidien de cinq jeunes maghrébins de Goussainville, que l'on suit pendant quelques jours à la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir. Ce que montre bien le film, c'est leur tiraillement entre la tradition propre à leur culture et le modernisme.
Je me souviens quand j'étais gamin, cette cité, c'était le pied. Un territoire plein d'aventures. Tous ces immeubles, ces copains. Puis après, tu grandis. Et plus tu grandis, plus arapte ici. On commence à t'étouffer. Et la galère arrive.
Hexagone est d'ailleurs le premier film à être étiqueté film de banlieue par les critiques. Mais c'est un an plus tard que sort la référence en la matière, aujourd'hui encore, La Haine de Mathieu Kassovitz. Que vous l'ayez vu ou non, vous en avez entendu parler, vous connaissez même sûrement certaines de ses répliques devenues cultes. La haine qui assoit le film de banlieue dans la catégorie des films de genre.
Hein ? Ça, c'est à moi que tu parles, là ? Oh, c'est à moi que tu parles ! C'est à moi qui parle, putain ! C'est à moi que tu parles comme ça, ouais !
L'histoire, Abdelisha se fait tabasser par un policier lors d'un interrogatoire. Il se retrouve entre la vie et la mort. Cette bavure déclenche des émeutes dans la cité des Muguets. Trois de ses amis vont devoir faire des choix entre vengeance, rébellion et pacifisme.
Tout le bordel que vous avez foutu, vous insistez pour rentrer comme ça dans l'hôpital ? Ils ont simplement fait leur boulot, les gars.
Allez, arrête quoi ? Fais leur boulot quoi ?
Les connards qui ont tabassé Abdel, ils vont être condamnés. Tu peux me faire confiance ?
Allez, tu rêves, là, allez.
Les flics qui sont là-haut sont là pour protéger Abdel et sa famille, c'est tout. La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, ils sont là pour vous protéger.
Ah ouais, et qui nous protège de vous ?
La haine est présentée en compétition officielle à Cannes. Les policiers assurant la sécurité de l'événement tournent le dos à l'équipe lors de la montée des marches, considérant que ce film est une diatribe anti-police. Avec plus de 2 millions d'entrées en salle, c'est pourtant un succès populaire. Mathieu Kassovitz et ses acteurs y revenaient il y a quelques années au micro d'Europe 1.
Ça va rien changer du tout.
Allez demander aux jeunes des banlieues. Que penses-tu ? Est-ce que la politique peut sauver la banlieue ?
Moi je crois que c'est plutôt le contraire. C'est la banlieue qui peut sauver la politique.
Ça, yes.
Je veux dire que le jour où on mettra au gouvernement des jeunes de banlieue, ça sera peut-être différent.
Voilà, troisième guerre mondiale.
Pourquoi pas changer de temps en temps les rôles ?
La haine qui, pardonnez-moi l'expression, ouvre les vannes. On est qui plus est dans la période Black Blamber, milieu et fin des années 90. Sortent pêle-mêle Banlieue 12, Yamakasi, Ma cité va craquer, Rail, les codes sont souvent les mêmes. Un univers masculin sur fond de trafic de drogue, beaucoup de comédiens non professionnels qui s'opposent à la police, portée souvent par une bande originale rap. Et parfois, il faut bien le dire aussi, quelques clichés. Mais il faudra attendre 2014 pour que le film de banlieue s'ouvre aux filles. Elles étaient jusqu'alors cantonnées dans des rôles secondaires. Mais avec Bande de filles, justement, Céline Sciamma les place au cœur de l'intrigue. La réalisatrice raconte la vie de quatre filles noires de banlieue, notamment Vic, personnage principal, qui essaie de se faire sa place entre petit trafic, guerre de gang et copines.
Tu vas faire quoi, là ? Je suis passée voir Abou, il m'a proposé du travail.
On sait tous ce qu'il propose comme taf, Abou. Surtout aux meufs.
Non, pas ça. Il m'a proposé de vendre pour lui.
Ah ouais ? Vendre ?
J'ai besoin de thunes.
Tu dérapes, là ?
C'est moi qui dérape ? T'as vu ma gueule ? C'est moi qui dérape, là ? Il vous a pas proposé à vous. C'est peut-être ça qui vous emmerde.
Non, mais tu rêves, là.
Ah ouais ? Il est où, le rêve ? Tu m'expliques l'endroit où je vis un rêve, là ?
Quelques années plus tard, c'est Ouda Beniamina qui emballe le Festival de Cannes. Avec son film « Divine », Dounia rêve de gloire et d'argent dans sa cité, soutenue par ses meilleurs amis. Elle s'engage auprès de Rebecca, une dealeuse très respectée.
Maïmouna, tu fais une ronde chaque 15 minutes. Tu regardes bien par là pour voir s'il n'y a pas une brigade qui arrive.
Je veux pas de problème, ok ? Pas d'histoire. Et une embrouille, je vous connais pas, vous me connaissez pas.
Là, clairement, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Ce sont elles les chefs de gang, prouvant que l'empowerment atteint toutes les histoires et toutes les classes sociales. Divine décrochera la caméra d'or à Cannes, puis trois Césars. Alors, si la police est évidemment souvent présente dans les films de banlieue, elle ne fait pas partie des personnages principaux. Jusqu'au Misérable, signé Lajli. Ça y est, on a le digne successeur de La Haine, ce film de banlieue que tout le monde attendait tant, acclamé à Cannes, dont il repartira avec le prix du jury. Les Misérables suivent les policiers de la BAC de Montfermeil jusqu'au jour où éclate une bavure, filmée par le drone d'un habitant du quartier.
J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion.
T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote.
C'est quoi votre problème à vous ? C'est quoi votre putain de problème ? C'est moi la loi !
T'auras jamais l'esprit bac, toi.
Parce que je joue pas au cow-boy.
Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.
Lajli, le réalisateur des Misérables, explique qu'il a voulu montrer la misère en banlieue, une misère qui touche tout le monde. Il le racontait au Festival de Cannes au micro d'Europe 1.
Le seul point commun entre les habitants et les policiers, c'est la misère. Donc voilà, les policiers, il faut dire ce qu'il y a, ils ont des salaires de merde et c'est compliqué. Et c'est pareil pour les habitants. Donc moi, j'essaie de faire un film où j'essaie d'être le plus juste possible. Je porte pas de jugement. Parmi les flics, il y a le bon, il y a le gentil. Le gentil peut être méchant et ainsi de suite. C'est pas un film anti-flic ni un film anti-banlieue. C'est, comme je dis, j'ai essayé d'être le plus juste possible de par mon expérience. Comme j'ai dit, moi, j'habite dans ce quartier depuis 38 ans. Aujourd'hui encore, j'y habite encore, mais vraiment par choix. J'estime que c'est mon studio de tournage. Donc aujourd'hui, je peux me permettre de me mettre dans leur peau et raconter l'histoire.
Avant de faire ce film, Ladjili a filmé pendant plus de 10 ans l'intervention des policiers en cité. C'est ce qu'on appelle le cop-watching. Les communicants politiques racontent d'ailleurs qu'Emmanuel Macron aurait été bouleversé par le visionnage des Misérables à l'Élysée et aurait demandé au gouvernement d'agir pour, je cite, « améliorer les conditions de vie en banlieue ». Les Misérables représentent à même la France aux Oscars, battus sur le poteau par les parasites de Bong Joon-ho. Et justement, le quotidien de policiers de la BAC, c'est aussi le sujet de Bac Nord de Cédric Jiménez, qui devait sortir dans quelques jours au cinéma. Le film nous plonge dans le quotidien de trois policiers de la BAC des quartiers nord de Marseille, incarnés par Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou, les quartiers nord qui détiennent le taux de criminalité le plus élevé de France. Chaque jour, Grégory, Antoine et Yacine sont soumis à la pression du chiffre par leur chef, lui-même pressurisé par le préfet.
Tu sais quoi, on sert à rien. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. On peut plus foutre les pieds dans les cités sans se faire agresser, sans se faire cracher dessus, sans se faire traiter de fils de pute tous les jours. Mais il faut pas faire de vagues, faut laisser faire. Bon, c'est comme ça.
Si bien qu'un jour, pour faire un gros coup, ils volent puis donnent une importante quantité de drogue à l'une de leurs sources en échange d'une information précieuse pour démanteler un réseau. C'est le début de leur descente aux enfers.
Là, on a envie de niquer le réseau, nous. Faut que tu me donnes une vraie info, là, un truc.
Ça fait trop longtemps que tu n'es pas allé dans ce quartier, tu comprends pas, c'est devenu le bordel, c'est devenu Bagdad là-bas. Les gérants, ils sont défoncés du soir au matin. Et pour garder leur quartier, ils sont prêts à te tuer. La loi maintenant, c'est eux. Il n'y a plus de flics, il n'y a plus de politique, il n'y a plus personne. Il n'y a plus aucune règle, c'est la jeune.
Bac Nord, qui est un polar musclé, rythmé, qui montre comment ces policiers sont eux aussi victimes d'une politique, du chiffre en l'occurrence. Bac Nord et plus largement la banlieue au cinéma, on en reparle dans un tout petit instant avec le réalisateur de ce film, Cédric Jiménez, qui a lui-même grandi dans les quartiers nord de Marseille. Alors comment les filmer sans tomber ni dans le cliché, ni dans l'angélisme ou l'antiflic primaire? Réponse dans un instant, mais d'abord, on va écouter un peu de musique dans Clap. Tiens, puisqu'on parle de Marseille et de la banlieue, écoutons I Am, je danse le Mia. Vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1.
Jeff Fada, je craigne des gueux, je vous prenne tous ici un par un. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois corps en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des Buloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille. Je danse le Mia. 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 Jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles, c'était moins rose.
Oh cousine, tu danses ou je t'explose?
Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué.
Oh, comment tu parles à ma soeur?
Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait, fils, t'y a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, attends, je brille. Je te bousille, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi. K8, c'est 73. JM 120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse mon vietnamien sur le volant. Avec la moquette, par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros.
Sur mon père.
La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse, à côté des personnes, ne touchait une bille. On dansait le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia.
Clap.
Mathieu Charrier.
Et pour poursuivre notre réflexion dans Clap sur la banlieue au cinéma, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir le réalisateur Cédric Jiménez. Bonjour.
Bonjour.
On vous doit notamment le film La French et Bac Nord qui devait sortir dans quelques jours au cinéma, qui est repoussé, on en reparlera dans cette émission, et dans lequel on suit trois policiers de la BAC des quartiers nord de Marseille aux méthodes franchement limites et qui sont finalement eux aussi victimes de la politique et des politiques. D'abord, pardonnez-moi, je vais donner votre date de naissance, mais vous êtes né en 76 à Marseille. Vous connaissez bien les quartiers nord et donc vous étiez ado lorsqu'est sortie La haine de Mathieu Kassovitz.
Oui.
Quel souvenir vous en gardez-vous ?
J'en garde le souvenir d'un grand film. J'adorais le cinéma déjà à l'époque. J'étais allé voir au cinéma. Et j'en garde vraiment le souvenir d'un choc cinématographique. Et c'est vrai que il a été, La haine, quand c'est arrivé, ça a été vraiment un représentant très fort de la banlieue, mais même du cinéma d'une certaine jeunesse en général. Hein, pas, je pense pas que ce soit uniquement de la banlieue, c'était tout un mouvement hip-hop, grave, banlieue, black blamber, comme on peut dire. Et c'était, oui, c'était presque plus large que ça, c'était dément.
Vous, quand vous écrivez, quand vous préparez Bac Nord, le point de départ, c'est quoi ? C'est ce fait divers sur ces policiers de la BAC qui franchissent la limite, ou pas d'ailleurs, après chacun a son interprétation, mais qui franchissent cette limite et qui se retrouvent derrière les barreaux ? Ou est-ce que c'est aussi la volonté de filmer en banlieue, de filmer la banlieue ?
Alors c'est les deux. Bon, il faut savoir que Marseille, les quartiers nord, c'est pas la banlieue.
Oui. Ce que je veux dire.
Oui, ce sont des arrondissements de la ville, mais forcément, c'est des quartiers qui sont un peu déconnectés du centre et qui ont un peu les mêmes codes que peuvent avoir certaines banlieues à Paris ou ailleurs. C'était les deux en fait, parce que on filme pas un endroit. On raconte une histoire, donc il y a toujours forcément au départ l'intérêt à raconter une histoire, à raconter des personnages, quelque chose qui nous touche, qui nous donne envie d'en faire un film. Donc ça m'avait, je m'étais posé la question justement parce que je connais très très bien cet endroit-là, mais c'était pas une volonté de raconter le quartier. C'est d'abord une volonté de raconter l'histoire de ces trois flics et le fait que ça se passe dans les quartiers nord, forcément. Me tenait d'autant plus à cœur.
Parce que j'imagine que c'est pas facile quand même de filmer ces quartiers nord ou quartiers au sens large, parce que faut essayer de pas tomber dans le cliché et dans l'image que la représentation qu'on peut en avoir parfois. Il faut en même temps essayer de montrer ce que c'est et c'est pas non plus un endroit idyllique. Comment on travaille et comment on fait attention à trouver, vous les connaissez, vous allez me dire c'était mon quotidien, mais quand même à représenter à l'écran.
Alors moi c'était mon quotidien, après il faut relativiser, j'en plus jusqu'à l'âge de 14-15 ans et ça a changé depuis, hein. C'est comme toute la société a changé, forcément ces quartiers-là ont changé aussi. Après comment on filme, je pense que tout ce que je filme, je le filme avec, j'ai de l'affection pour ce que je filme, il faut que je me sente concerné. Et surtout sans essayer de se mettre, d'être ce qu'on ne doit jamais être quand on filme, c'est-à-dire juge.
Oui, mais sans être juge, on peut parfois avoir quand même une forme de pression de se dire j'ai aussi envie d'en montrer les bons côtés. Bien sûr. Qui est un peu le cas d'ailleurs dans votre film, parce que évidemment, c'est des quartiers difficiles.
On peut avoir un point de vue sans juger.
Oui.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est les personnages. C'est de traiter les personnages, toujours, toujours, toujours. Qui sont ces gens ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je vis avec eux ? Qu'est-ce qu'ils ont traversé ? Ce n'est pas de les juger, ce n'est pas de donner un avis sur eux. C'est de traverser un moment de vie avec eux. Et en traversant ce moment de vie avec eux, forcément, je vais mettre l'accent sur ce que j'ai compris, sur ce qui m'a touché. Et comme ça m'a touché moi, je le filme naturellement. Et forcément, c'est ce qui va émerger. À l'image.
Vous avez l'impression, évidemment, les Misérables et le succès populaire que ça a été ont mis comme ça les projecteurs sur ces films de quartier, de banlieue. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui on en voit un petit peu plus, je pense à Divine, on a l'impression quand même que c'est un genre cinématographique qui commence à s'installer et parce que aussi sans doute, il rencontre aussi son public.
Bien sûr, il y a de ça, je pense que la culture banlieue, entre guillemets, mais en tout cas urbaine qui a grandi. Elle est passée par le sport, avec le foot, elle est passée par la musique, avec toute la musique urbaine, dont le hip-hop, le rap qui est aujourd'hui très 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 écouté. Donc je pense que elle a pris une place dans la culture et dans la société qui est plus installée, qui est moins marginalisée, donc certainement qui est plus intégrée dans la société, tout simplement, je pense, et dans la culture.
Et c'est une bonne chose pour ces quartiers?
C'est une super bonne chose, évidemment. Déjà que ce sont des zones qui sont déjà bien assez stigmatisées et rejetées, il ne faudrait pas qu'en plus, elles le soient de la culture et des yeux de ceux qui créent et qui peuvent faire un peu avancer les choses, ou en tout cas, pas l'inverse, en tout cas.
Voilà, Cédric Jiménez, réalisateur de Bac Nord, j'ai pas donné le casting, Gilles Lelouch, Karim Leclou, François Civil, dans le rôle de ces trois flics, j'allais dire ripoux, mais je préfère rester voilà, un peu flou, parce que c'est tout l'intérêt du film, et même si on se rappelle, on a une vague idée du fait divers qui sous-tend tout ça, bah, on se rappelle plus forcément comment ça s'est fini, et voilà, donc c'est une très bonne chose de revoir ça au cinéma, merci beaucoup d'être venu dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. Ce sera notre séquence Les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Pénélope Bagieux, autrice de bande dessinée, qui nous racontera ses plus grands souvenirs de cinéma. Tout de suite.
Europe 1.
Et on se retrouve dans Clap pour Les films de ma vie. Alors, vous connaissez le principe désormais. Une personnalité qui répond à un questionnaire de Proust, mais version cinéma. Et cette semaine, c'est l'autrice, dessinatrice Pénélope Bagieux qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez signé une adaptation en bande dessinée de Sacrée Sorcière de Roald Dahl, donc vous connaissez ça par cœur, j'imagine.
Oui.
C'est chez Gallimard, je le précise, et d'ailleurs, je vous le conseille au passage. Alors, est-ce que vous êtes prête pour notre questionnaire?
Super prête.
C'est parti. Votre meilleur souvenir en salle?
Mon meilleur souvenir en salle, quand j'étais plus jeune, un copain de mes parents m'avait emmené au ciné sans mes parents pour la première fois, donc c'était un peu mon film de voyou, de l'aventure, et c'était le premier Batman de Tim Burton que j'avais vu au Gaumont Alésia, je me souviens encore, et c'était la première fois que j'allais au ciné sans les parents, donc c'était vraiment la folie.
Vous aviez quel âge?
Je pense qu'il doit dater de 89, un truc comme ça, genre 7 ans.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, c'est beaucoup trop jeune pour en
voir.
Batman, c'est hyper glauque, le Joker, mais et j'avais trouvé ça génial, du coup. J'avais adoré. Peut-être que du coup, ça vient de là, ce grand amour de Tim Burton que j'ai eu pendant toute mon adolescence.
Mais qui êtes-vous?
Je suis Batman.
D'où
est-ce qu'il sort, ces fantastiques jouets?
Ils vont voir ce qu'ils vont voir avec moi.
Votre pire souvenir en salle, Pénélope Bagieux?
Mon pire souvenir en salle, bon, pas pire, mais à l'époque où j'avais la carte UGC, j'avais beaucoup moins de remords à partir au milieu d'un film quand il était nul. Et je me souviens être partie assez vite au milieu de Van Helsing. C'est marrant, ça m'a marqué. Ça restait mon étalon de pire film pendant très longtemps. C'était vraiment très très mauvais.
Ma vie. Mon travail. Mon destin est de combattre le mal.
Et je sais pas, c'était nul, quoi. C'était mal écrit, les dialogues étaient pourris. Je sais pas, j'ai pas redonné sa chance au produit, mais je me souviens d'un très mauvais film.
Maintenant que j'ai votre attention.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre, Pénélope Bagieux?
La famille Tenenbaum, sans hésitation. Pour moi, c'est... Déjà, c'est mon film de Wes Anderson préféré, c'est peut-être mon film préféré. Dans cette maison, y a une pièce pour les jeux de société. Et j'aime tout dans cette maison. En fait, je voudrais faire partie de cette famille. Je la trouve formidable.
La famille Tenenbaum comptait 3 enfants exceptionnels.
Quand je dis vendez, vendez.
Chas Tenenbaum, un génie de la finance, investit dans l'immobilier dès l'adolescence. Margot Tenenbaum, auteur dramatique à succès, obtint le prix Pulitzer en 3e. Richie Tenenbaum, champion de tennis, devint le 2e meilleur joueur mondial à 17 ans. Ils étaient intelligents. Ils étaient célèbres. Ils étaient malheureusement pour eux les enfants d'un homme nommé Royal Tenenbaum.
Le film culte que vous n'avez jamais vu?
Ah, il y en a tellement. Il y en a même certains dont je suis capable de parler comme si je les avais vus à force. Si, le truc, à chaque fois, les gens me disent « Quoi ?» et me font répéter 5 fois tellement ils n'y croient pas. Je n'ai pas vu Shining.
Il est arrivé ici avec sa femme et ses 2 petites filles d'environ 8 ou 10 ans. Il était réputé compétent, avait de bonnes références et en croire les gens, il semblait être absolument normal et inoffensif. Mais à un moment donné, au cours de l'hiver, il a dû être victime, malheureux, d'une espèce de dépression nerveuse. Il est devenu fou furieux. Il a tué sa famille avec une hache.
Eh bien, je puis vous assurer, monsieur Ullman, que ça ne risque pas de m'arriver.
Quoi?
T'as pas vu Shining? Voilà, j'ai pas vu Shining maintenant, et du coup, ça a fini par faire partie de moi. C'est un de mes traits de personnalité. Je suis une personne qui n'a pas vu Shining. Voilà.
Chérie.
Vous avez pas envie de le voir
mais
en
si,
soi?
Si, si, j'ai envie de le voir, mais du coup il y a une espèce de pression populaire qui me fatigue. Je me dis, et quoi? Et si finalement je le voyais jamais, est-ce que ma vie serait vraiment si nulle?
Le film que vous aimez mais vous avez honte de l'avouer?
Ah, si, j'ai pas honte, mais il y a pas très longtemps, avec mon copain, on a fait la liste des films qui sont vraiment pas des films glorieux, mais que l'autre n'avait pas vu. Et je lui ai montré un film dont j'avais un souvenir à pleurer de rire de quand j'étais petite, une comédie française qui s'appelle Promotion Canapé.
Oui.
Et on l'a regardé et j'étais très gênée parce que bah, plus rien ne va en 2020 dans ce film. C'est pas du tout possible. Et il me disait, ça te faisait rire ça? Et je disais, mais oui, je sais pas, c'est l'époque, je trouve ça très très drôle. Et en fait, il est assez problématique ce film.
Ma petite, c'est avec regret que je me vois dans l'obligation d'appliquer ce blâme administratif. Mais si vous savez vous montrer exemplaire... coopérative, cet enfer pourrait être de courte durée.
C'est gentil.
C'est vous qui devriez être gentil, très gentil.
Vraiment, je ne comprends pas pourquoi Mademoiselle Poteau raconte partout que vous êtes un vieux vicelard dégueulasse. Moi, je vous trouve plutôt vachement sympa.
Le film qui vous a fait le plus rire?
Bon, les films de Sacha Baron Cohen sont peut-être les films qui m'ont fait le plus rire vraiment physiquement, à pleurer, à pouvoir respirer. Mais sinon, j'ai un souvenir vraiment très très fort de la première fois que j'ai vu Mission Cléopâtre. Vraiment, vraiment, j'avais très très mal au ventre tellement je riais, c'était incroyable.
Enfin, le coccyx, faites-moi confiance, je suis pas charagiste.
Vous êtes pire! Vous avez 2 mois de retard, les plans sont pas respectés. Attention, mon petit numéro 10, j'ai des relations, des gens très haut placés qui peuvent vous faire des très graves ennuis, des gens de haut rang!
Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie.
Et le film qui vous a fait le plus pleurer?
My Girl.
Ah.
Ouais, et ça marche toujours. Incroyable. Toute la vie, ça marchera. Quand elle débarque à l'enterrement de son petit copain qui est mort avec ses piqûres d'abeilles. En plus, maintenant, par anticipation, je commence à pleurer déjà un quart d'heure avant la scène. Et alors, on est une communauté quand même, les gens avec ce film. C'est que on voit les gens qui ont un cœur. Les gens qui voient ce film et qui pleurent encore en étant adultes, c'est les gens qui ont vraiment un cœur.
Et la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Oh, pareil, j'ai vraiment des réponses cucu, mais je crois que vraiment, vraiment, Grise, les chansons de Grise, qu'est-ce qu'on a pu les faire avec ma sœur? Parfois, c'était moi, Sandy, parfois, j'étais Dani. En yaourt, évidemment, en plus, puisque donc n'avais pas une maîtrise de l'anglais qui était optimum. Mais vraiment, vraiment, toutes les chansons de Grise, on les connaît par cœur avec ma sœur.
Merci beaucoup Pénélope Bagieu d'être venue dans Clap. Et je rappelle donc votre dernière bande dessinée, Sacrée Sorcière, adaptée du roman Le Droit de l'Âle. C'est chez Gallimard BD. Et je le conseille, on a déjà parlé multiples fois sur l'antenne, mais on le redit.
Merci
à nos auditeurs.
Redisons-le.
Nous, on se retrouve dans un petit instant pour la suite de Clap, le temps d'accueillir mes collègues critiques.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Alors, puisque finalement les salles ne rouvriront pas mardi, on va de nouveau débattre ensemble de films sortis en DVD, VOD et sur vos plateformes. Au programme aujourd'hui, The Prom, nouvelle comédie musicale de Ryan Murphy, au casting prestigieux. C'est sur Netflix. On parlera aussi d'I'm Your Woman sur Prime Video, de Just Kids en DVD, VOD, tout comme les blagues de Toto qui débarque après avoir cartonné au cinéma. On commence donc par The Prom, nouvelle comédie musicale de Ryan Murphy. C'est disponible sur Netflix.
Purée, quelle histoire! On en parle partout sur Twitter. Elle voulait aller à un bal de promo avec sa petite copine. Et les parents d'élèves ont pété un boulon et ils ont tout annulé.
Il faut qu'on aille là-bas,
oui,
et qu'on mette le feu.
Oui, on va monter le plus gros événement qu'ait connu l'Indiana depuis l'événement qui a eu lieu avant.
Alors, c'est l'adaptation éponyme du musical de Broadway qui avait, je crois, plus de 300 dates au compteur. Vous êtes vraiment dans le film américain tel que vous l'imaginez, c'est-à-dire l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve exclue du bal de promo de son lycée, très important, vous le savez, aux États-Unis, parce qu'elle est homosexuelle et qu'elle voulait s'y rendre à ce bal avec sa petite copine. Et elle va recevoir le soutien inattendu de vieilles stars de Broadway sur le déclin, incarnées notamment par Meryl Streep, Nicole Kidman ou James Corden. Voilà, on est exactement, je trouve, dans ce qu'on peut imaginer du film qui mélange le musical, l'univers des lycées américains. Messieurs verdict, Thierry Chaise.
Bah,
j'aime bien quand il se serre les mains. Comme...
En fait, j'aime un film sur deux. Ouais, moi, le ça. Début me ravit. Un, parce que Meryl Streep s'éclate vraiment. Alors, elle en fait des caisses, mais alors à ce niveau-là, c'est génial. D'ailleurs, je trouve que tout le monde essaie d'en faire des caisses, mais personne
James
n'en fait
Corden
autant qu'elle.
Aussi, et James Corden.
Oui, mais sauf que c'est moins difficile. Et ce film-là est génial parce que c'est l'histoire de. Donc de personnalités qui sont sur le point d'être has-been, comment se relancer, ben en prenant un sujet très actuel, en essayant de se refaire la cerise, justement, en allant militer. Et là, on se dit, waouh, c'est
oui,
hyper
parce que
bien.
Eux, ils le font vraiment par un pur intérêt. Ils se disent, oh là là, attends, faut qu'on trouve un sujet médiatique.
Et on peut dire que toute ressemblance avec des événements existants est là. Et on se dit, waouh, il y va quand même fort, Ryan Murphy, c'est vachement. Et puis arrive le film le deuxième film pour lequel cette histoire est racontée, qui est de raconter, en effet, la difficulté du coming out au fin fond des États-Unis et tout. Il fait le film pour ça. Et alors, ce film-là, il n'est pas désagréable, mais simplement, c'est parti tellement haut qu'on revient dans une guimauve, pas désagréable, mais ça... Et alors, ben c'est fini, il n'y a plus tellement de... Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, les bisounours
tout
prennent...
Tout le monde danse, tout le monde chante.
Tout le monde danse, tout le monde chante, et on oublie d'être méchant, donc c'est un peu dommage.
Fabrice Leclerc, The Prom ?
Je suis très d'accord. J'aime beaucoup ce que fait Ryan Murphy, parce qu'il a quand même amené l'homosexualité, il l'a banalisé à la télévision et presque au cinéma. C'est son gros problème, et c'est le problème de Glee déjà à la base, c'est que ça va très loin dans le propos à beaucoup d'endroits, et ça revient tout de suite dans une morale américaine, tartinée, au sirop, d'érable, qui donne une petite chose comme The Prom, qui est sympa à regarder. Franchement, ça ne va pas révolutionner le droit des LGBT, mais voilà, c'est bien fait, et puis on va aimer ça pendant Noël. Franchement, c'est quelque chose qui change les idées.
C'est ce que j'allais dire. Vous êtes chez vous tranquillement un soir ou un après-midi pluvieux et gris, vous prenez un plaid, un bon thé, vous vous mettez devant The Prom, vous n'êtes pas déboussolé. Et vous passerez pas un mauvais moment. Je pense.
Tout à fait d'accord.
Ça s'appelle The Prom et c'est sur Netflix. Clap. Alors on va maintenant débattre d'I'm Your Woman que vous trouvez cette fois sur Prime Video.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Il s'est passé quelque chose ce soir, tu dois partir. Maintenant, Jean. T'as pas le temps de faire ta valise. T'achèteras des affaires en chemin.
Jimmy, stop. Jimmy, c'est moi, c'est Jean. Je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé.
Prends le sac et pose pas de questions, ma belle. Va réveiller le petit.
Film signé Julia Hart, qui est un road movie dans ce qui semble être les années 70, parce que c'est pas vraiment daté, mais sur fond de film de gangster, je vous explique. Jean est mariée avec Eddie, c'est un voyou, elle s'ennuie ferme, ils essaient d'avoir un enfant, mais ils y arrivent pas. Alors un jour, Eddie revient avec un bébé. Elle en voulait un, il en a trouvé un, mais ce Eddie va finalement disparaître. Et Jean et le bébé doivent donc quitter leur maison, parce que certains ennemis d'Eddie en ont après eux. Elle reçoit de l'argent et la voilà partie, toujours avec ce bébé. Donc vous me suivez, accompagnée d'un certain Cal, associé d'Eddie, en direction d'une maison soi-disant sûre, avec tous les obstacles que vous pouvez imaginer inhérents à ce type de voyage. Thierry Chasse, je crois que vous avez beaucoup aimé,
parce que je trouve que le film est sur une base assez classique, extrêmement intéressant, parce que la plupart des choses qui se passent sont hors champ. On ne sait pas bien où il a trouvé ce bébé au départ. On a l'impression qu'elle n'a pas très envie de savoir non plus. C'est-à-dire qu'en effet, elle s'ennuie, mais elle s'ennuie. Et puis à un moment, on lui dit il faut partir parce que sinon, vous allez mourir, en gros. Elle ne sait pas où est son mec, elle ne sait pas s'il est encore en vie, elle ne sait pas qui est ce type qui vient lui parler. Et tout au long, moi, je trouve, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas forcément chercher à savoir et que c'est le récit de l'émancipation d'une femme, alors dans les années 70, puisque c'est ce qui est marqué dans le résumé, mais c'est vrai que
on ne sait pas vraiment.
Et ben, moi, j'ai absolument marché. Je trouve celle de la comédienne qui joue, qui est connue par les séries, qui a son premier rôle important au cinéma, Rachel Brosnahan, est vraiment épatante. Et c'est d'une efficacité très forte. Et une fois encore, en nous laissant, à nous, spectateurs, le loisir d'imaginer tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est pas, ça n'arrive pas si souvent à l'écran. Petit ouf.
Fabrice Leclerc, I'm Your Woman, vous souscrivez ?
Je souscris parce que c'est du Tarantino tel que j'aimerais le voir en ce moment. Non, mais c'est vrai, c'est du Tarantino fin, intelligent, qui pose plein de questions et qui ne donne pas toutes les réponses, qui n'est pas illustratif du tout. Thierry a tout à fait raison, c'est un film qu'on prend... vraiment comme un grand point d'interrogation avec ce personnage de femme absolument étonnant, ce bébé, on ne sait pas d'où il vient, cette ambiance 70s, on n'en est pas sûr, c'est un film de gangster, mais c'est un huis clos, c'est plein de choses en même temps, c'est extrêmement riche. Je ne sais pas si c'est réellement le film qu'on a envie de voir
pendant
les fêtes pour se détendre.
Quoique, si on aime le cinéma.
Ouais, pendant que la Boom 2 est en train de passer sur TF1. Mais pour ceux qui aiment le cinéma un peu différent et le cinéma de plateforme différent, là, pour le coup, il faut vraiment y aller.
Voilà, on critique beaucoup des fois les choix des plateformes.
Tout à fait.
Ils mettent en avant un film qui est effectivement...
C'est pas un film qui aurait été fait par un studio de cinéma.
Là,
en plus, voilà, ils n'auraient pas plus pris de risque. I'm Your Woman, vous trouvez ça sur Prime Video. On a aussi parlé de The Prom sur Netflix. Et je voulais qu'on aborde maintenant Just Kids, qui sort en DVD VOD.
Le premier objet de ce conseil aujourd'hui, c'est de déterminer lequel le plus approprié pour les enfants.
Moi, ce que je veux, c'est vivre avec Jack et Lisa.
Il y a une nécessité pour toi d'avoir un tuteur. Si c'est Jack ton tuteur, il aura cette responsabilité sur les épaules. Toi, la tienne en retour, ça sera de l'écouter. À la fois comme ton grand frère et aussi comme ton tuteur.
Il faut que je réinvente quelque chose pour Titi, pour Lisa, pour moi. Je suis un gamin. Je suis juste un putain de gamin.
Just Kiss, donc, qui était sorti au milieu de l'été. Il faut bien le dire, il n'avait pas forcément rencontré son public, mais c'est peut-être l'occasion de le rattraper en DVD VOD. Alors l'histoire, elle est assez simple. Jack, 19 ans, Lisa, 17, Mathis, 10 ans, ils se retrouvent orphelins après la mort de leurs deux parents en quelques années. Leur seule famille, c'est un oncle, assez distant, il faut bien le dire. Mais ils réussissent à obtenir le droit de vivre ensemble, tous les trois, c'est-à-dire que Jack, le grand, devient leur tuteur. Ils ont hérité d'un peu d'argent, d'un appartement dans une tour de Grenoble, d'un break, assez luxueux d'ailleurs, et très vite, ben voilà, ils alternent en faisant à peu près n'importe quoi, ce qu'ils auraient pu faire sans la présence des parents, en essayant aussi quand même d'aller à l'école, quand il faut bien continuer à aller à l'école. Vont-ils s'en sortir ? Comment ? Voilà l'enjeu, Fabrice Leclerc, Just Kids.
Just Kids, c'est un très beau film qui est vraiment passé inaperçu, vous avez raison, et c'est très dommage. Pourquoi ? Parce que on appelle ça des films coming of age. Vous savez, ces films sur l'adolescence qu'on a parfois du mal à vivre. Ben là, c'est l'adolescence, mais avec en plus les responsabilités d'un enfant. C'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais en étant déjà adulte. C'est un film qui est très frais, c'est un film qui a plein de choses, plein d'inventions, plein d'idées de scénario. Les personnages sont extraordinaires. Kassem Oteklin, qui est jeune acteur découvert chez Téchiné, est un acteur absolument extraordinaire. On le voit encore dans ce film. Non, vraiment un beau, beau film sur un parcours comme ça et sur le fait de perdre l'innocence sans la perdre, parce qu'ils ne perdent pas leur innocence, même si on veut qu'ils soient adultes avant l'heure.
Thierry Chaise, Just Kids.
Un film absolument formidable.
C'est vous deux qui êtes allés le voir en salle cet été, parce que malheureusement.
C'est le réalisateur Christophe Blanc, c'est aussi un mec vraiment. C'est un cinéaste français qu'on ne connaît pas assez. Je trouve que c'est extrêmement fin sur un sujet, en effet, qu'on peut dire, on l'a vu 10 000 fois.
Oui, c'est ça.
Avec cette idée de comment est-ce que le personnage de Kassem Oteklin doit être à la fois adulte, alors qu'il a envie aussi d'être. Donc comment on est entre deux ? Tout le monde est bien dirigé. Et vraiment, moi, je trouve que les enfants et les adolescents ne sont pas toujours très bien au cinéma. On va peut-être parler d'un film où c'est le cas. Là, je pense qu'il y a une qualité. Et quand tout le monde est bon, il y a un metteur en scène est bon, ça révèle aussi des gens. Voilà, c'est un film très fort, un beau film d'auteur et qui n'est pas du tout excluant. C'est une très belle histoire. Enfin, c'est vraiment à redécouvrir totalement. Les salles étant fermées, profitez-en vraiment.
Et c'est aussi l'occasion, effectivement, ces DVD et VOD de rattraper parfois des films qu'on a loupés en salle, parce qu'il faut bien le dire, début août, on n'a pas forcément envie d'aller voir ce genre de film. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont sorti d'ailleurs à ce moment-là. Voilà pour Just Kids.
Clap.
Et Thierry Chaise ne tenait plus en place, il voulait vous parler des blagues de Toto qui sort également en DVD VOD.
Ça va bien se passer.
Nouvel instit, nouveau départ.
Est-ce que vous avez déjà puni un élève alors qu'il n'avait rien fait ?
Alors qu'il avait rien fait ?
Ah bien sûr que non.
Ah, ça tombe bien parce que j'ai pas fait l'exercice qu'on devait faire pour aujourd'hui.
J'ai jamais désobéi à une règle de toute ma vie.
Non mais tu vas voir, on s'habitue très vite.
Après, là, il faut bien le dire, un succès en salle, plus 1 million de spectateurs, les blagues de Toto. Alors Toto, il fait toujours autant de blagues, il faut bien le dire. Il fait tourner en bourrique ses parents, qui sont joués par Guillaume de Tonquédec et Anne-Marie Vin. Lorsqu'un jour, figurez-vous qu'il est en train d'assister à un événement organisé par le patron de son papa dans un musée. Et ça se transforme en catastrophe puisqu'une statue s'effondre. Évidemment, Toto est mort de rire. Il est le coupable désigné, menacé, figurez-vous, d'être envoyé en pension. Mais Toto va devoir prouver son innocence, aidé de ses meilleurs amis. Thierry, c'est à vous.
Bah, moi, ce que je regrette, c'est que on n'est pas dans les avec le DVD, le voilà offert. Moi, j'avais un spectacle dans la salle de cinéma où j'avais été le voir. Parce qu'il y avait donc.
Qu'il n'a pas été projeté à la presse. Il n'a pas été montré aux journalistes.
On était au début du déconfinement. Je pense que les parents étaient ravis de mettre les enfants quelque part. Et il y avait un spectacle des enfants qui, vraiment, au bout de 10 minutes, ont décroché. Et dans la salle, ils faisaient un spectacle. Et c'était beaucoup plus drôle, en fait, ce qu'ils faisaient là. Moi, je sais bien, c'est un film pour enfants, un film familial. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, puisqu'on dit ah, mais non, c'est un film pour enfants. Donc, un film pour enfants, apparemment, doit être pas bien filmé, très mal joué. C'est des petites pastilles en film animé qui seraient formidables. Simplement, il faut raconter une histoire. Alors, ça a cartonné, donc ils ont sans doute raison. Moi, je trouve qu'il y a, puisqu'on fait un film familial, un manque d'ambition qui est criant. Vraiment, c'est pas très drôle. C'est même, on se dit, tiens, peut-être qu'il va y avoir un truc avec cet enfant, quelqu'un va le malmener à un moment. On rêve de ça, en fait. On se dit, il va y avoir un truc. Et non, ça continue, c'est guimauve, ça tape sur les nerfs, voilà. Bon. Et que ce soit un des plus gros succès français de l'année, bah, c'est bien triste.
Fabrice Leclerc, vous aviez adoré, vous, les blagues de Toto.
0 plus 0 égale la tête à Toto. Voilà.
Fabrice, faut développer.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, a... non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ça a fait plus d'un million d'entrées. Le public a toujours raison.
Voilà.
Donc ce film devait se faire. Après, je pense qu'il est fait pour de très mauvaises raisons. Il n'y a pas de cinéma là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'écriture. Il y a Anne-Marie Vin et de Tonquédec sont de très bons acteurs qui ne sont pas utilisés comme ils pourraient l'être dans un film comme ça. Moi, je considère que quand on fait une... C'est pas parce qu'on fait une comédie familiale ou un film pour enfants qu'il faut, voilà, torcher le scénario et ne pas réaliser le film. On peut faire des films pour enfants qui sont extraordinaires. E.T. est un film pour enfants. Oui. Voilà. C'est tout.
Après, voilà, c'est, bah, la vérité, c'est aussi qu'on prend un personnage qui existe. On prend des, Thierry le disait bien, on prend des mini-sketchs, on les met bout à bout, on essaie de trouver une intrigue.
Soyons francs, on est dans un produit marketing, totalement marketé pour la salle. Ça fonctionne.
Qui fait son million.
Il y a une tristesse de voir Daniel Prévost.
Oui, mais.
Non, mais parce que. Voilà,
mais même Guillaume de Tonquédec et Anne-Marie Vin, qui sont des bons acteurs. Mais bon,
qu'est-ce que vous voulez qu'on dise?
Ok, n'en jetez plus. Les blagues de Toto, DVD, VOD, tout comme Just Kids, vous l'avez compris. On vous recommande plutôt le deuxième. Et puis, on a aussi parlé d'I'm Your Woman, que vous trouvez sur Prime Video, et de The Prom sur Netflix. Thierry Chaise, Magazine Première, Fabrice Leclerc, Paris Match, merci beaucoup d'être venu dans ce studio.
Merci à vous.
Merci à vous.
Un de ces jours pour continuer à débattre des films qui ne ressortent pas pour le moment en salle, mais ça viendra, on y croit. Merci à Nicolas Baudin qui a de nouveau réalisé ce numéro de Clap préparé par Marjorie Adelson. Vous retrouvez l'émission en podcast. Abonnez-vous, commentez, critiquez, positif, négatif. On vous lit et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, 14h-15h, pour un nouveau numéro sur Europe 1. Europe 1.